Marie Choquet, nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui dans cette bibliothèque de l'hôpital Sainte-Anne. Je crois que nous avons déjà fait un entretien avec vous il y a un an. Et peut-être aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, qu'on évoque l'idée de, qui est un thème effectivement à la mode actuellement, en tout cas qui fait penser, qui fait réfléchir, sur le thème de la prévention du suicide chez les adolescents.
Alors, si vous voulez, on oscille toujours entre le tout ou rien. Hein. On a l'impression soit ça n'existe pas, soit c'est énorme. Et en fait, quand on voit les chiffres, il y a d'abord, il faut différencier le décès par suicide, qui est rare pour les moins de 15 ans, et environ 800 jeunes se meurent par suicide par an entre 15 et 24 ans. Donc 800 pour 6 millions d'adolescents, c'est toujours pour les parents, bien sûr, un pourcentage trop élevé, mais globalement, ce n'est pas un très très gros problème de santé publique. Par contre, lorsqu'on va déjà vers les idées suicidaires ou les tentatives de suicide, on atteint quand même, autour des tentatives de suicide, 6% de jeunes qui ont déjà fait une tentative durant la vie. Là, de nouveau, ce n'est pas 90%, mais c'est 6%, et ces 6%, on va les retrouver dans les établissements scolaires, dans les associations, dans les familles. Et donc là, c'est le passage à l'acte suicidaire est un vrai problème de santé publique sur lequel il faut se pencher. Et c'est dès le plus jeune âge, parce que contrairement à ce qu'on croit, même les petits de 11, 12 ans, 6e, il y a déjà 2% qui ont fait un acte suicidaire. 2%, de nouveau, ce n'est pas la majorité, mais c'est un petit pourcentage qui mérite attention.
Et alors effectivement, pour cette population-là, ceux qui ont eu un acte ou un moment de passage à l'acte, où la mort n'a pas été là, on a déjà, je dirais, des schémas de prévention. Hein, je crois que vous nous l'avez dit, d'autres confrères l'ont pu le présenter, c'est-à-dire prendre en charge ces adolescents qui sont dans des situations de souffrance, d'insécurité, etc. Ouais. Là, on a un rôle de prévention. Je pense qu'effectivement, une des préventions peut-être importantes, c'est s'attacher à bien prendre en charge un adolescent qui a déjà fait.
Oui, parce qu'elle est aussi, d'une certaine façon, la plus évidente. On les identifie. Et il ne faut pas oublier qu'il y a même un tiers qui font une récidive. Donc, c'est un vrai sujet de réflexion. C'est un vrai sujet, je dirais, d'acte. Hein. Donc, c'est très important parce qu'on sait bien que le mode de prise en charge, ce qu'on fait durant l'hospitalisation, comment on contacte les parents, etc., va avoir une influence sur les suites. Donc là, je crois qu'il faut peut-être généraliser un certain nombre de principes qu'on connaît maintenant et pour lesquels il y a une certitude scientifique, disons.
Oui. En termes d'épidémiologie, si quand vous dites un tiers récidive, si déjà nos systèmes de santé évitaient qu'il y ait un tiers de récidive, on aurait déjà eu une action de prévention tout à fait importante.
Selon moi, c'est certainement l'action principale autour du suicide qu'on peut faire. C'est la prévention de la récidive, ce d'autant plus qu'on sait que la répétition de la récidive implique quand même un risque de décès à un moment ou à un autre. Donc là, vraiment, on est sur un axe de santé publique sur lequel il faut absolument faire des choses dans tous les hôpitaux de France, avec tous les médecins, généralistes ou pas. Donc c'est une action très importante. Quand il s'agit maintenant de la prévention du suicide ou de la tentative de suicide, rentre dans un sujet plus délicat pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que les données scientifiques ne nous pointent pas un profil très typique. Hein. Ce sont des jeunes qui sont en difficulté, mais Dieu sait qu'il y en a sur d'autres domaines. On voit bien que ce sont des jeunes qui ont des difficultés familiales, difficultés scolaires. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils cumulent et que leurs problèmes se chronicisent. Mais la science ne nous permet pas, au jour d'aujourd'hui, vraiment de mettre en avant ces 6% de jeunes qui vont passer à un acte suicidaire. D'accord. Peut-être quand même un axe qui est assez puissant, finalement, et qui est le meilleur, je dirais, facteur prédictif, c'est les jeunes qui ont subi une violence physique ou sexuelle. C'est-à-dire que lorsque vous avez dans votre population, dans votre classe, dans vos écoles, des jeunes qui sont toujours un peu les victimes des autres ou qui ont subi une violence sexuelle, là vraiment, on peut dire, on peut faire quelque chose pour la prévention du suicide. Mais pour tous les autres...
Oui, en fait, vous nous dites qu'il n'y a pas, on n'a pas de profil particulier.
Malheureusement, on n'a pas la science infuse et oui. On n'a pas de profil particulier. Vous savez, ce qu'on voit, c'est qu'un jeune qui va mal, il va s'exprimer sur diverses façons. Il va passer aussi un peu d'un comportement à l'autre. Il n'a pas en tête, je vais me suicider, etc. Les choses ne sont pas si rigides dans sa pensée non plus. Et parfois, il passe à l'acte sans y avoir pensé. On a actuellement 20% de jeunes qui passent à l'acte sans y avoir pensé. Donc, tout ça, c'est beaucoup plus flou que ce qu'on croit, hein, parce que... On croit que les choses sont claires, qu'il n'y a qu'à additionner, vous voyez, etc. Mais non, c'est beaucoup plus flou. Donc pour les acteurs, c'est beaucoup plus difficile d'intervenir sur des groupes et d'avoir des actions de prévention. Alors on peut dire quand même qu'il y a des actions de prévention, je dirais, qui peuvent concerner un ensemble de la population parce qu'ils vont augmenter le bien-être des jeunes. Voilà, d'une part, le bien-être à l'école et à la maison. Hein, c'est quand même les deux sphères dans lesquelles vit un jeune quotidiennement, c'est la maison et l'école. Donc moi je suis pour...
Vous oubliez peut-être les pères ?
Oui, mais c'est un petit peu plus tard. Et le problème, c'est que le choix des pères se fait en fonction de la qualité relationnelle qu'on a avec ses parents. Ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord. Et donc les deux grands axes, c'est quand même, selon moi, l'école. Il ne faut pas être insensible aux pères, mais il ne faut pas croire que les pères vont expliquer tout, qu'ils vont pouvoir tout faire. Souvent, on l'a utilisé comme axe de prévention, par exemple du tabagisme, etc. Et on s'est trompé parce qu'on n'a pas justement vu que les pères n'ont qu'une influence si un jeune va plutôt mal. Et lorsqu'il va plutôt bien, il résiste beaucoup plus aux pères que ce qu'on croit. D'accord. Donc c'est ce bien-être à la maison et à l'école qu'il faut travailler.
Valoriser.
Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'au fond, les parents, eh bien, ils vivent des changements quand même importants de société. Hein. On ne peut pas dire, la vie n'est pas si facile que ça. Et puis, y a la stabilité du couple, et puis il y a le travail, et puis il y a la valorisation de tout et chacun, et puis il y a les problèmes que chacun des parents peut avoir. Et on s'aperçoit que, alors qu'on accompagne des adultes dans tous les champs de la modification de la société, si vous êtes par exemple un comptable, on va vous mettre, on va vous apprendre les nouvelles technologies, ce qui a changé, etc. On a l'impression qu'être parent, c'est une science infuse. Et il n'y a qu'à faire avec. Et que donc, il n'y a pas du tout la prise en compte du fait qu'être parent, c'est pas que ça s'apprend par des recettes, mais quand même, ça s'apprend à réfléchir, ça s'apprend à regarder, ça s'apprend à se poser des questions et ça s'apprend en collaboration avec les enseignants, etc. Donc, il y a vraiment un travail à faire avec les parents qui est plutôt sous une forme de discussion et pas qu'avec les parents qui sont socialement les plus défavorisés parce que c'est toujours un peu l'axe qu'on prend. Si on veut travailler auprès des parents, on va prendre les parents socialement les plus défavorisés. Les problèmes peuvent exister dans tous les milieux sociaux. Il va se modeler un peu en fonction de niveau social, mais on a, je dirais, des pathologies, quel que soit le niveau social. Donc, il faut apprendre à ses parents à discuter ensemble, à avoir quelques principes, quitte à avoir quelques exercices. Écoutez, je vais peut-être à l'encontre de tous ceux qui n'aiment pas les recettes, mais qu'est-ce que vous voulez ? On apprend à bien cuisiner, appliquer d'abord les recettes et puis on prend et on invente. Eh bien, moi, je reste persuadée que donner quelques principes, donner quelques moyens simples aux parents de bien agir, de bien résister, de bien répondre quand on ne sait pas quoi faire, bien sûr, hein, parce qu'il y a des parents qui ont beaucoup plus un savoir-faire que d'autres, eh bien, je pense que ça peut les rassurer, ça peut les rassurer dans leur rôle. Et après, ils peuvent trouver d'autres moyens de faire. Donc ça, je crois beaucoup à cette éducation des parents, mais qui est plus un échange, sous forme d'échange entre les professionnels, les parents, etc. Échange entre eux. Et puis un deuxième axe sur lequel on réfléchit quand même pas beaucoup, c'est pour le bien-être à l'école.
À l'école,
ça. C'est-à-dire le bien-être, l'école, pour la majorité des personnes, qui sont enseignants, parents d'ailleurs, ou politiques, c'est d'apprendre à lire, à écrire, à les acquis fondamentaux. Mais attendez, un gamin, il est pendant 6, 7, 8 heures à l'école. Il y construit sa relation avec les pères, justement, hein, dans la cour, mais aussi durant la cantine. Et tout ceci, on fait comme si ça n'existait pas. Un travail sur qu'est-ce qu'on fait dans la cour, comment on peut justement favoriser ce travail de groupe, mais aussi ce travail en commun, un peu solidaire, pas uniquement chacun pour soi, mais un peu tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble?
Donner du plaisir à être là.
Et donner du plaisir, bien sûr, ça c'est le maître mot, je dirais, de ce qu'on oublie toujours, c'est que les gens font des choses parce que ça leur fait plaisir. Et quand on a fait, par exemple, l'enquête sur le sport, on pensait que les jeunes allaient faire du sport pour maigrir, pour être en forme, pour être les premiers. Non, ils font du sport parce qu'ils aiment ça. Donc, vous voyez, c'est ce plaisir quotidien qu'il faut redécouvrir, qui est multiple. Hein. Il n'y a pas qu'une forme de plaisir, il y a aussi le plaisir d'apprendre, le plaisir d'échanger, le plaisir de jouer avec les autres. Et puis, c'est le plaisir qui, globalement, existe pour tous les élèves. Et puis, il y a ces élèves, et un enseignant le voit toujours assez vite, qui va se soustraire à tout ça, qui ne va pas trouver des plaisirs à échanger avec les autres, qui va être mal, etc. Eh bien, ce jeune-là, après, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Entre les enseignants, mettre peut-être en place une politique, enfin, oui, une façon de faire, qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves, comment on peut faire, etc. Mais globalement, c'est d'abord favoriser ces besoins qu'ont les jeunes, c'est d'être ensemble, d'apprendre, de prendre du plaisir, d'échanger. Et l'apprentissage, dans ce cas-là, va naturellement être aussi source de plaisir. On a l'impression qu'apprendre, ça doit être douloureux. Non, ça peut être douloureux, c'est vrai, hein, quand on n'a pas, ça peut être douloureux, mais ça ne doit pas être douloureux, ça doit d'abord être un plaisir. Et pour ceux pour qui c'est une douleur, eh bien, il faut les accompagner un peu pour que la douleur devienne plaisir. Après tout, on peut tous apprendre quelque chose.
On voit bien ces deux champs que vous trouvez importants, l'école, la famille, où là, il y a de manière globale quelque chose qui peut s'apparenter à une prévention. Mmh. Ceci étant, je pense il y a des adolescents qui ont été dans toute cette situation-là, mais un peu idéale, comme vous la décrivez, et qui font quand même un passage à l'acte. Hein, alors, si vous voulez, c'est vrai que j'entends bien cet axe de prévention primaire que vous décrivez, mmh. auquel on peut adhérer. Hein. Vous dites qu'il y a un pourcentage d'adolescents qui feront une tentative de suicide parce qu'ils ont été confrontés à des situations de violence. C'est un petit pourcentage. Et vous dites aussi,
La moitié de ceux qui font une tentative de suicide, voilà. Quand même.
Et puis, dans ce que vous dites, il y a quelque chose aussi qui m'interpelle, c'est aussi des adolescents qui, sans aucun antécédent, font un passage à l'acte.
C'est vrai que, malheureusement, on est aussi obligé d'admettre qu'il y a les mystères de la vie. Et qu'en tant que professionnel, on a parfois du mal. Ce n'est pas parce que globalement, un système a réussi, une action a réussi, que tout a réussi. Et là, eh bien, je dois dire aussi qu'il faut penser aussi à l'aide aux professionnels à qui des choses comme ça arrivent. Je crois qu'il faut arrêter à ce moment-là de chercher
à tout prix
à quand même culpabiliser des enseignants ou des professionnels, des médecins, des infirmières, etc. Il faut aussi accepter d'accompagner ces professionnels en cas de difficulté. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas, en particulier en santé mentale. On aimerait bien, peut-être que dans 10 ans, on dira différemment parce qu'on aura avancé dans les connaissances, mais au jour d'aujourd'hui, force est de constater que le risque zéro n'existe pas, mais qu'on peut faire des choses tous ensemble pour améliorer et, j'allais dire, aussi eh bien, accepter l'erreur éventuelle, qu'il faut à ce moment-là, de façon solidaire, dans une école, hein, ou dans une famille, ou dans une zone, discuter. Hein. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ou qu'est-ce qu'on a mal vu? Moi, je crois que ça ne sert à rien de se voiler la face et de se culpabiliser. c'est toujours, je dirais, une attitude qui n'est globalement pas rentable.
J'entends bien, donc vous dites qu'il n'y a pas de risque zéro et je crois qu'il faut aussi le maîtriser. J'ai envie de vous demander dans cette notion de prévention globale, si le mot prévention prend son sens, comment on pourrait expliquer des différences significatives entre des pays, hein, que vous devez peut-être avoir une idée par rapport à justement, est-ce que des pays avec des taux totalement différents d'une autre peuvent expliquer le pourquoi peut-être un pays a un taux de suicide de leurs adolescents plus important qu'un autre. C'est peut-être une question piège, hein, je veux
non,
pas.
Non, je sais bien, mais on connaît d'ailleurs moins le problème du suicide que celle, par exemple, des drogues, bizarrement.
Oui,
c'est
on en
un
avait
sujet
parlé.
Qu'on a beaucoup plus étudié, sur lequel on a beaucoup fait d'expériences. Globalement, force est de constater que les pays du Nord se débrouillent pas si mal. Et on peut se poser des questions du pourquoi. Alors, il y a une question qui est assez, enfin une réponse, une partie de la réponse qui est assez simple, c'est qu'il y a une vraie santé publique qui existe là. C'est-à-dire la médecine, il y a la médecine individuelle comme partout dans le monde, mais il y a une vraie prévention, il y a une vraie santé publique où, j'allais dire, il y a des programmes qu'on met en place, qu'on évalue, qu'on remet en cause, qu'on réexpérimente. C'est-à-dire, on n'est pas là en train de dire « Ouh là là, si on ne peut pas faire l'idéal, on ne fait rien », ce qui serait un peu notre façon de faire, hein, le temps que ça se discute, j'allais dire, des années passent. Mais on va dire bah, « Écoutez, voilà ce qu'on sait et voilà ce qu'on propose, nous, en tant que communauté. » Et on va expérimenter, on va évaluer.
Et ces situations ont permis de montrer des taux significatifs.
Ah oui, par exemple, ce qu'on a très clairement montré, c'est que lorsqu'on forme les médecins généralistes à la meilleure identification de la dépression, on peut diminuer le taux de suicide à la suite de dépression par deux. Eh bien, quand on identifie bien la dépression, on peut la diminuer par deux. Alors, par deux, ce n'est pas par dix.
Non. Hein?
Mais c'est déjà la moitié en moins. Et donc la réflexion, elle est plutôt constructive en disant, ben voilà, là on peut faire par ce moyen, on peut le diviser par deux. Pour les autres, on va le diminuer encore de 20%. Et puis, voilà, il y a une partie, je le répète, mais je crois que c'est important avant de commencer de savoir que ça ne sera jamais parfait. Et qu'on ne peut pas en vouloir aux uns et aux autres de ne pas construire des programmes parfaits. Mais au moins de les baser sur des données, de réfléchir sur ce qu'on va faire et de remettre en cause après ce qu'on a fait. Et cette construction pas à pas, hein, parce
oui,
que c'est une construction pas à pas, et qui est probablement très différente de notre façon de faire, où on aimerait, penser tout, et quand on aura tout pensé, on agira. Alors que dans beaucoup de pays, en particulier anglo-saxons, eh bien, ils y vont plus petit pas par petit pas. Mais globalement, on peut dire qu'ils ne sont pas si inefficaces que ça.
D'accord. Alors, j'entends bien vous reprendre cette notion du risque zéro et qui n'existe pas. Moi, j'ai envie de vous dire, on comprend aussi que cette volonté à tout prix de faire une prévention globale de l'adolescent peut être aussi portée par la souffrance des associations de parents. Et qui voudraient, de façon peut-être idéale, arriver à ce qu'il n'y ait même plus de risque zéro.
Alors je pense qu'une vraie, action de prévention doit être portée par les personnes qui ont envie que ça continue à aller mieux.
D'accord,
vous voyez,
c'est
pas nécessairement par ceux qui pensent qu'on va éviter le pire, etc. Mais quand on regarde la vie d'un enfant, globalement, jusqu'à 4-5 ans, il va bien, sauf s'il a vraiment eu des grands traumatismes, il va bien. Les premiers jours d'école, ça va bon, pour un certain nombre, c'est plus difficile, et ainsi de suite. Et alors, on voit bien que ça décroche hein, au niveau du collège. Et donc, il me semble que la réflexion de ceux qui disent ben, « on va faire pour que ça continue à aller bien », qu'est-ce qui va faire que ça continue à aller bien ? Plutôt que de vouloir prévenir des pathologies.
Ou repérer des indices.
Oui, j'entends bien. Je dirais. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas exister, mais dans un second temps. Hein. Ce n'est plus de la prévention primaire, on est déjà dans la prévention secondaire, et elle est importante et elle doit être menée. Probablement pas tout à fait avec les mêmes professionnels. Si la prévention primaire peut être menée avec les enseignants, avec les éducateurs, avec les parents, et avec les médecins, bien sûr. Celle sur la prévention secondaire, je dirais, doit être plus spécialisée. faut déjà mieux connaître quand même la psychopathologie. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce type de prévention-là. Je serais assez contre quand même une prévention qui serait menée comme ça par des enseignants qui n'ont aucune spécialité, qui n'ont pas du tout, je dirais, sous contrôle de vrais spécialistes de la santé mentale. Je crois que chacun son rôle. Mais la prévention primaire peut se faire aussi avec eux. Mais globalement, elle doit être prise en charge par les gens qui ont affaire aux jeunes tous les jours.
Dans le, comme vous dites, dans l'idée d'aller mieux.
De continuer à aller bien, voilà. Plutôt de dire, on ne va pas laisser un enfant comme ça d'un coup se dégrader parce que ses parents divorcent, son père est peut-être décédé, sa grand-mère est allée vivre je ne sais pas où, tous ces petits traumatismes, on ne va pas laisser un enfant aller mal à cause de ça. Donc, si on le sait, on va l'accompagner un petit bout, vous voyez. Oui. C'est vraiment des petites choses qui font que, un redoublement, voilà une chose dont on sait que c'est assez dramatique, traumatique pour un enfant. Et qu'est-ce qu'on fait? Globalement, on ne fait rien. Plutôt que de... Alors on lui dit, ben, voilà, tu as un peu de chance, tu vas être dans une classe comme ci, mais tu as 3 mois, pas plus, etc. On met la pression maximale et certains enfants ne vont pas pouvoir résister à cette pression-là.
Alors quand ils ne peuvent pas résister, c'est justement là où ils sont des espèces de fragilité,
voilà,
qui peut être un cheminement...
Oui, mais on peut le préparer. On n'est pas obligé de le mettre dans une situation difficile. On peut l'accompagner, on peut essayer de comprendre pourquoi il ne peut pas travailler à la maison. On fait, vous savez, un enfant est toujours prêt à parler, mais si on ne lui dit rien ou si on croit qu'on peut parler à sa place, alors évidemment, il ne parlera jamais. Donc il faut apprendre à parler aux enfants. Vous savez, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. On lui dit, on lui demande... Hein, on dit, oh là là, on ne va pas parler de ça, etc. Mais si, parce qu'il vit dans un monde où il entend de tout. Et les gosses captent à peu près tout, ils s'y vont pas bien, ils savent ce que c'est le suicide. Hein, vous savez, un gosse d'11 ans, il sait ce que c'est.
Oui, oui.
Donc on peut lui en parler, on n'est pas obligé de faire dramatique, mais on peut lui en parler. Comment tu te sens, comment tu te sens avec les autres?
Et je crois que le message que vous pouvez dire aussi, c'est effectivement... dire aux adolescents sans obligatoirement parler du suicide avec ses
oui,
difficultés,
ben bien sûr.
De dire vous n'êtes pas bien,
voilà.
Vous pouvez en parler à un adulte.
Mais vous savez, il y avait un petit test qui était élaboré par les médecins généralistes. Et lorsque le gosse disait oui à 3 questions qui étaient, il se sentait seul, il commençait à prendre des drogues et il avait subi une violence, sincèrement, à ce moment-là, on pouvait poser la question oui. du suicide. Parce que réellement, le risque était certain. Donc on doit adapter, je dirais, le discours en fonction du niveau de difficulté de l'enfant. Et là, c'est vraiment l'entourage proche qui peut le faire, qui peut être formé et qui peut assumer. Pas tout seul, pas tout seul. Il ne faut pas trop de fantaisie dans ces affaires-là.
J'entends bien dans ce que vous nous dites là.
Il y a les professionnels de la santé mentale et... Et voilà, ils sont là pour nous guider, pour nous soutenir, pour nous faire comprendre, pour nous dire ce qui a changé.
Alors, vous parlez des professionnels de la santé mentale. Je voulais revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'idée des associations, des associations qui ont souffert, des associations de parents, par exemple, qui ont subi ce drame et qui, alors, elles veulent avoir une espèce d'activisme peut-être excessif. C'est difficile pour elles d'accepter qu'il n'y a
non,
pas
je de... Non, je pense que ces associations sont très importantes parce que les parents, ils peuvent s'aider les uns les autres. Ils savent ce dont ils parlent, ils ont vécu la chose et même au bout de la 10e fois, quand ils racontent leur histoire à un autre parent, cet autre parent sait de quoi il parle. Et donc, il y a un vrai échange qui peut se passer et ses parents peuvent s'aider. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, est-ce que maintenant, ces associations peuvent dire des choses aux adolescents? Ça, c'est probablement une autre question. Parce qu'un adolescent, globalement, il a envie de vivre. Il a envie de résoudre ses questions. Il a envie, de devenir grand, de devenir adulte. Et donc, quand on lui vient parler de suicide, des fois, il se demande de quoi il est question. Et donc, je pense que ce n'est pas nécessairement le bon axe d'aller dans les classes, de dire, il faut avoir envie de vivre. Mais excusez-moi, la majorité, il en a envie. Ça déborde même de partout, alors ils en ont envie. Donc, ce n'est pas ça le message. Je pense que les parents d'enfants suicidés, sincèrement, ils savent très bien qu'ils se mettent en association parce qu'ils peuvent vraiment se soutenir et faire des choses, faire comprendre au pouvoir public que ça existe. Il y a un tas d'actions qui peuvent être menées par ces parents pour montrer que le problème existe, que ceci, que cela. Mais de les faire passer dans les écoles pour finalement parler de quelque chose qui ne concerne pas a priori la majorité des adolescents, serait comme si tous les médecins de France et de Navarre, chacun dans sa pathologie, va aller devant la classe en disant voilà le cancer, ça existe, voilà les ceci et cela. Alors ce pauvre enfant, il aurait successivement 200 médecins qui chacun viennent parler de la pathologie. Et qu'est-ce qu'il peut en faire? En fin de journée, il n'en fait rien.
Et finalement, ce que j'ai envie de peut-être pour résumer un peu de façon simpliste ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a une façon globale d'aider l'enfant à grandir, hein, avec que ce soit les deux lieux que vous expliquez très bien, l'école et la famille, qui peuvent être a priori des lieux de prévention, je dirais, sans vouloir être exhaustif, de prévention de la qualité du devenir de l'enfant.
Alors, il y a une chose qu'on oublie toujours, et moi aussi je l'avais presque oubliée, merci pour le résumé, c'est que dans une enquête sur les jeunes, on le dirait, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos parents? Et vous savez, les gosses, ils disaient, qu'ils soient gays, qu'ils ne soient pas tristes, qu'ils ne soient pas toujours démoralisés. C'est-à-dire qu'on ait envie de leur ressembler. Voilà. Hein? Les enseignants, eh bien, les enseignants, ça devrait être une population enthousiaste. Qui a une certaine confiance.
Est-ce que c'est pas une
Et qu'on en
utopie?
veut. Ben voilà. Comme
Oui.
ça fait des adultes à qui on a envie de ressembler.
D'accord.
Pareil pour les parents, pareil pour les animateurs. Et donc, au fond, l'envie de vivre se transmet dans les micro, je dirais, lieux quotidiens. Et donc, ce qui veut dire aussi, c'est que si vous n'avez pas une population adulte bien dans sa peau, eh bien, vous avez moins de chances d'avoir une population adolescente bien dans sa peau. Et donc, veillez aussi au bien-être des enseignants. Écoutez, je trouve scandaleux qu'on croit qu'un enseignant, ben, ça n'a qu'à. Ben, il doit aussi être bien, parce que s'il est bien, il va être bien pour les enseignants
Je crois
et
que
pour les élèves.
c'est
Les
général.
parents bien dans leur peau, les travailleurs, voilà. Et donc, tout ce, je veux dire, tout se tient. Hein. Et si on fait attention qu'à une chose et pas à l'autre chose, ben, on risque fort de ne pas aboutir. Et c'est pour ça que je suis aussi pour, effectivement, une réflexion sur le bien-être des adultes au travail. Partout où ils sont, il y a peut-être un vrai champ de réflexion qui va aider ultérieurement les enfants aussi à aller mieux.
Marie-Choquet, je crois que vous venez de nous montrer comment une politique du petit pas nous apparaît tout à fait intéressante. Et en tout cas, je vous remercie.
Merci beaucoup.